Patria, Patriarca, 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 Patriarca,
le micro en main, que mon message parvienne.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Ghost butch. Strong and sensitive. Boots are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and holes.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon au
féministe,
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois,
de 18h30
à 20h,
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Oui, donc force est de constater qu'il y a une montée en puissance donc, du climat islamophobe dans ce pays, un climat qui est propulsé carrément par le haut via les pouvoirs publics et les institutions. Donc j'en veux pour preuve, en fait, tous les rapports européens, internationaux, y compris le collectif contre l'islamophobie en France, qui produit donc des données qui sont identifiables, quantifiables par rapport aux discours racistes, islamophobes, des passages à l'acte. Et force est de constater que donc nous gouvernons et l'État ne fait rien pour prendre en compte ce type de discrimination et de violence aggravée, qu'en même temps, ça obéit à une logique qui se situe dans un continuum non seulement colonial, on n'en est même pas parlé néocolonial, parce qu'il y a une vraie continuité, et qu'en même temps, voilà, les musulmans et les populations issues de toutes les immigrations et de toutes les colonisations dans ce pays sont de toute façon construits comme étant l'autre avec un grand A, et donc considérés non pas comme des citoyens de plein droit, qui sont donc redevables du même souci essentiel émanant donc de l'État, c'est-à-dire garantir donc les droits, des droits fondamentaux, et en même temps être prise en charge lorsqu'il subit une discrimination, une exclusion et a fortiori une agression physique.
Et la spécificité justement des violences faites sur les femmes musulmanes?
Absolument, donc c'est une spécificité qui a permis finalement la libération et la légitimation de la parole et du discours raciste par le biais de lois, des lois qui sont des lois d'exception puisqu'elles visent spécifiquement une population et particulièrement des femmes. Et là en l'occurrence on a assisté entre le mois de mai et le mois de juillet à une dizaine d'agressions physiques violentes avec la mort d'un bébé. Et force est de constater que là aussi, que la classe politique, la classe syndicale, la classe des organisations traditionnelles antiracistes ne s'émeut pas plus que ça du sort qui est fait à ces femmes. Donc, est plutôt euphémise, ou en tout cas polémique, sur la notion même qui est apportée en fait à l'usage du terme islamophobie.
Bonsoir, alors vous êtes bien à l'écoute de Dégenré, l'émission féministe pour déranger. Et on vient d'entendre Isman Chouder qui parlait lors d'une soirée à Lille dans le cadre d'une semaine dont va nous parler bientôt Meriem. Et c'était une semaine contre l'islamophobie qui était organisée. Et du coup, ça vous présente un peu le thème de l'émission de ce soir puisque nous allons parler d'islamophobie et de féminisme anti-islamophobe. Alors, tu nous présenterais un peu la semaine et cette soirée à Lille ?
Oui, bonjour. Alors, c'était pas exactement une semaine contre l'islamophobie, c'était la semaine pour l'égalité et contre le racisme, qui était organisée du 25 au 30 novembre 2013. Et souvenons-nous, ça tombe pile poil 30 ans après la marche pour l'égalité, qui après s'est fait appeler marche des beurs un peu par les médias et par les personnes par la suite. Et du coup, c'était un peu pour rappeler... cette histoire-là, qui est l'histoire de l'immigration, des descendants d'ex-colonisés, d'immigrés, des enfants d'immigrés. Et dans le cadre de cette semaine-là, qui était vraiment très riche, où il y avait vraiment beaucoup de choses, du coup c'était du lundi au samedi, en sachant que le samedi se clôturait par une marche. Du coup c'était une marche un peu en hommage à cette marche d'il y a 30 ans, de quand même 4 heures. C'était pas une marche qui traversait la France, mais quand même 4 heures, entre Lille et Roubaix. Et sinon, tous les jours, il y avait des choses, notamment autour de, justement, les marches et du coup mettre en lien avec les marches des droits civiques aux États-Unis. Ou alors, le deuxième jour, c'était un peu l'axe police-justice et du coup les crimes racistes, le lien avec la police, qui est raciste aussi, rappelons-le, et qui tue des gens régulièrement. Ou alors, le mercredi, c'était plutôt l'axe lutte des travailleurs, nord-africains essentiellement, parce que je pense que c'était pas mal les travailleurs marocains, algériens, il y avait des choses là-dessus. Et puis du coup, le jeudi, c'était génial. Le Front Uni, du coup, j'ai oublié de parler de qui organisait cette semaine. Du coup, cette semaine était organisée par le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires et Devoir d'Insolence. Du coup, c'est un collectif qui existe sur Lille et agglomération, qui est assez combatif sur les questions d'antiracisme, d'anticolonialisme, de mémoire des luttes. Et du coup, voilà, revenons-en à cette semaine. Le jeudi, il y avait une manifestation pour un féminisme anti-islamophobe. En soutien aux femmes voilées victimes d'agressions islamophobes, je manifeste en portant le voile. C'était un peu l'appel de la manif.
Et du coup, tout le long de l'émission, on va entendre des slogans qui ont été enregistrés pendant cette manif-là.
Voilà. Et du coup, c'était ça la semaine. Bon, le lendemain, il y avait aussi du théâtre, il y avait plein d'autres choses. Et le samedi, ça se clôturait donc par une marche. Ça, c'était pour parler un peu de la semaine. Ces infos-là, elles sont disponibles quand on farfouille un peu sur les sites internet lillois. Et aussi en cherchant autour de Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, qui est le collectif organisateur. Voilà. Alors pourquoi pourquoi une émission de radio là-dessus ? Eh bien parce que, tout simplement, c'est une émission féministe, mais aussi émission féministe antiraciste, et qu'on est dans un contexte en France où l'islamophobie est de plus en plus décomplexée, qu'il y a au pouvoir une espèce de non-prise en compte totale au fait de ces questions-là, et que du coup, ce qui laisse une possibilité de passage à l'acte. Et du coup, cet été, pour les personnes qui ne savent pas, il y a eu plein d'agressions islamophobes contre des femmes voilées et du coup des agressions physiques. Du coup, là, on est vraiment passé au passage à l'acte physique de personnes qui se sont fait taper dessus. Et notamment, ça fait toujours le truc un peu le fait un peu symbolique, important, c'est qu'en l'occurrence, il y avait une femme enceinte qui s'est fait agresser cet été et qui a perdu, du coup, l'enfant qu'elle attendait, quoi. Vu qu'elle estimait que c'était son enfant à venir, quoi. Voilà, et du coup, dans ce cadre-là, de climat d'islamophobie décomplexée, de loi, de proposition de loi en vrac, de là, on entend tous les 2-3 jours, c'est le nouveau truc à la mode, qu'ils veulent peut-être légiférer sur quelque chose autour du voile. Alors ça va être plutôt l'université ou peut-être les entreprises privées. Ou à chaque fois, on entend des nouvelles choses ou peut-être ramener des modifications à la loi 2004. Suite aux lois sur Nounou qui travaille chez elle, dans le privé, l'affaire Babylou, voilà, et on en passe, et les agressions physiques. Bah, y a une sorte de mise au banc, en fait, des femmes portant le foulard de la société, et on s'est dit que c'était pertinent de passer une émission là-dessus. Alors aussi, bah, après, on va vous passer plusieurs petits extraits sonores, et un des premiers extraits qu'on va passer, c'est aussi tout ce fantasme qui existe en France autour de laïcité et de féminisme, comme si la laïcité était garante du féminisme, ce qui n'est pas du tout le cas, et que l'espèce de lien qu'on met entre ces deux concepts, là, entre féminisme et laïcité, qui n'a pas vraiment lieu d'être. Et ça va être notre premier extrait sonore qu'on écoute, ça sera Ismaël Schuder, encore une fois.
Nous mettons en avant et nous mobilisons notamment cette espèce de fantasme qui est né à peu près dans l'imaginaire collectif, politique et médiatique, cette liaison consubstantielle du féminisme et la laïcité. Comme si la laïcité était féministe par essence et le féminisme laïque par essence. Et nous visons à déconstruire parce que cette liaison consubstantielle est opérante et ne fonctionne. C'est-à-dire concrètement, les gens de ce pays, notamment les politiques de ce pays, ne se sont découverts féministes que par rapport à l'islam. Et donc je tiens à le dire, pour celles et ceux qui en douteraient encore, mais je ne doute pas qu'ici personne ne soit dupe, c'est que dans ce pays, ça n'est certainement pas la laïcité, encore moins la République, qui a émancipé les femmes. Comme dans le monde entier, ce sont les femmes qui, en se mobilisant, ont arraché leurs droits.
So, 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 solidarité avec les femmes voilées. So, 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 solidarité avec les femmes voilées. So, 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 solidarité
Voilà, donc on vient d'écouter Ismaël Schuder. Alors tout à l'heure, on a oublié de présenter Ismaël Schuder. Ismaël Schuder est donc la présidente du CFPE, donc le collectif des féministes pour l'égalité, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, depuis 2004, et notamment qui s'est organisée, construite et fondée autour de la loi 2004 pour l'abrogation des signes religieux à l'école, mais que nous on va appeler l'exclusion des filles voilées des écoles, quoi. Parce que ça visait particulièrement une population qui est la population des musulmans et des musulmanes en l'occurrence. Et voilà, du coup, c'était le fantasme autour de laïcité et féminisme. Et du coup, bah, il faut toujours mettre en lien tout ça. Qu'est-ce qui fait, au fait, cette islamophobie? On en a déjà parlé dans d'autres émissions. Et bon, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'on dit, mais toujours mettre en lien avec le contexte français, le mythe de choc des civilisations, en fait, qui nourrit pas mal en Occident, autour d'une population, du coup, ou d'un groupe social, qui serait le groupe social islam, là, des personnes musulmanes, où derrière ce qu'on vit, c'est les personnes non blanches, qui seraient un groupe non intégrable dans la République. Parce que la République, une est indivisible, et les blanches, idéalement, elle est catho, même si elle ne le dit pas trop, quoi. Ou en tout cas, elle est laïque. Enfin, une forme de laïcité un peu bizarre, quoi. Et du coup, le choc des civilisations, c'est qu'il y aurait des espèces de sauvages qui viennent d'ailleurs, un ailleurs qui n'est pas l'Occident, qui ne serait pas intégrable, au fait. C'est des cultures qui sont...
comme opposées.
Voilà, ou... forcément opposées, et qui ne peuvent jamais aller ensemble. Et bon, tout ça, c'est pas nouveau, en fait, toujours à mettre en lien avec la colonisation. La colonisation, pareil, hein, c'est le sens du progrès, c'est aller civiliser des barbares et des indigènes ailleurs, parce que leur culture ne serait pas une culture démocratique des Lumières progressistes, et du coup, qui vivrait encore dans l'obscurantisme. Et tout ça, c'est ce qui nourrit, justement, en fait, bah, tout le fondement orientaliste, en fait, de créer un espèce d'Orient sauvage, et aussi tout le délire culturaliste de choc des civilisations. Et on est toujours dans la même chose, en fait. Rien que, du coup, ça vise particulièrement en ce moment, bon, toutes les personnes racisées, mais particulièrement les personnes musulmanes. Et en l'occurrence, dans notre émission, on parle beaucoup plus des femmes musulmanes, où ça se manifeste quand même pas mal sur le fait de ce foulard qu'elles portent sur la tête, qui serait le symbole par excellence d'un arriérisme ou d'un obscurantisme ou de la domination masculine. À chaque fois, on va nous parler d'un nouveau truc. Et bien sûr, pour rappeler, je veux dire, c'est pas nouveau aussi, au fait, psychose autour du voile ou du foulard. Bah, rappelons les cérémonies de dévoilement en Algérie pendant que l'Algérie était colonisée, du coup par les femmes des colonels et des générales et compagnie là, qui venaient, je veux dire, coloniser par les armes ou du moins par le côté militaire. Là, leurs femmes de l'autre côté venaient coloniser par un autre aspect qui était ramener les vertus du féminisme, de la libération de la femme, notamment en dévoilant les femmes algériennes. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ?
Du coup, un peu pour enchaîner avec le prochain extrait qu'on va entendre, c'est aussi comment cette manière de fabriquer, d'invisibiliser, en fait c'est aussi une manière pour invisibiliser, tout un groupe social en fait dans la société, parce que comme la République, elle serait une et indivisible, et qu'il y a des personnes qui pourraient pas en faire partie, et en fait on leur laisse aucun espace et aucune existence, et du coup il y a tout un truc d'invisibilisation et de discrimination qui vont ensemble, quoi.
Voilà, et du coup suite à ça on va pas parler longtemps, on va laisser les petits extraits sonores qu'on a préparés pour l'émission, et là les extraits, on va écouter deux extraits à la suite, le premier d'Ismaël Chouder, encore elle, parce qu'on la kiffe et du coup on va beaucoup l'entendre parler dans cette émission, et le deuxième il est de Lila Ben Sharif. Alors Lila Ben Sharif, c'est une élue d'Europe Écologie Les Verts. Bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse chez elle. C'est pas tant son appartenance politique que le fait qu'elle a quand même une sorte de travail social et de travail de militantisme sur le terrain concernant les questions d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les discriminations et ce genre de choses. Et c'est, du coup, c'est une élue de Rhône-Alpes. Du coup, elle est dans le coin. Saint-Étienne, précisément, je pense. Voilà, et on écoute les extraits.
Vous savez cette fameuse définition du bon indigène, puis après du bon immigré, puis après du bon issu d'eux? Parce que c'est toujours les mêmes qui sont issus d'eux. Hein. Il y a un temps, c'était issu de l'immigration, issu d'eux. Alors ça fait joli maintenant de dire issu de la diversité. On euphémise. Et maintenant, on est dans la définition du bon musulman. Et ce que j'ai retenu, Saïd, c'est que le bon musulman, comme le bon indigène, il y a quelques dizaines et siècles, même maintenant quand on pense à l'Algérie, c'est qu'il a trois caractéristiques qui perdurent et dont il ne faut absolument pas sortir, justement. Et moi, ça me renvoie à ça tu m'interpelles sur l'aveuglement du mouvement féministe. C'est que le bon musulman, donc moi, en l'occurrence, la bonne musulmane, je dois rester à ma place. Et ma place, c'est quoi? C'est d'être polie. D'accord? Oui, madame. Non, madame. Vous avez raison, madame. Je dois être invisible. Et alors, surtout, je dois être apolitique. C'est-à-dire ne rien revendiquer, renoncer, en fait, à ce qui fait de moi et ce qui fonde ma participation citoyenne. Si j'ai le malheur de sortir de ce triptyque, il est évident que je déroge à la définition de ce qu'une politique coloniale de siècle a tout fait pour me cantonner. Alors évidemment, quand j'ai le malheur en plus de faire une phrase avec un sujet imberbé en complément, en français, alors évidemment que vous comprenez bien que ça ne va pas du tout. Ça ne va plus du tout. Et ça, ça peut paraître risible, ça n'était pas dramatique en termes de discrimination, d'exclusion, de violence. Ça pourrait paraître risible parce que quand on est confronté en H24 et à des gens de bonne volonté, de bonne intention, qui sont aveugles, de bonne intention mais aveugles, et qui finalement se sont arrogés, et parce qu'on leur a donné les moyens finalement de disqualifier ma parole, de délégitimer ma posture et mon engagement. Et on a confisqué mon être en tant que sujet, le fameux « je », justement, qu'on parlait dans le film, le fameux « je ». Je ne peux pas, en tant que Ismaël Chouder, dire « je », parce que je suis comptable du tout. Et ce tout, c'est le tout islam, monsieur islam, et les musulmans.
Ni pitié ni assistance, dignité, résistance. Ni pitié ni assistance, dignité, résistance.
La question de la légitime inscription de l'islam dans l'espace public, et ça remonte pas à 20 ans, c'est bien en lien avec notre histoire migratoire, l'histoire de l'immigration, s'il faut le rappeler, l'histoire de l'immigration maghrébine, elle est indissociablement liée à l'histoire coloniale. La histoire de la mosquée de Paris, elle n'est pas née, la mosquée de Paris, elle n'a pas été créée dans les années 80, elle a été créée bien au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc on bute encore sur cette question de cette nécessaire reconnaissance, légitime reconnaissance de l'islam dans l'espace public qui participe résolument du vivre en France de ces familles issues de l'immigration qui, voilà, l'histoire, le fait social, le fait historique, fait qu'elles sont aujourd'hui en France.
Alors vous êtes toujours à l'écoute de Dégenrer sur Radio Kaléidoscope et avant d'enchaîner, on va faire une petite pause musicale avec un morceau de Riam qui s'appelle Crise de l'Occident.
Du mal à m'extirper des griffes du système. Je suis ambive entre mes dires et mes fers. Je marche au pas sans la carrure d'un soldat. Mais je prends la résistance depuis mes premiers pas. Je m'enferme dans leur case petit à petit. Babylone me consume à petit feu petit. Le pouce sur un tactile ou sur un 15 pouces. Babylone me pousse vers les sorties. Je communique en abrégé, voire en algèbre. Mais crois-moi, rien ne vaut un jeu démon réel. C'est le foutoir dans ma tête, je peux pas le cacher. J'ai le cerveau comprimé entre deux cachets. Éternel, incertaine, le cul entre deux chaises. Un jour je te souris, un jour je te crève. Mais tout ton pris le dessus sur le tatami. Faut que je me relève avec la force d'un sumotori. À être à l'aise, un stress m'envahit, pourrit mon organisme, c'est le malaise de la ville où l'opulence est placardée sur un mur en plâtre, place selon ton statut de prolo ou de cadre, où on avance tous dans le même sens. Un troupeau de moutons qui broute l'obéissance. J'ai l'étiquette de l'impertinente, celle qui critique les séries à la présidence. Comportement troublant, inquiétant, hésitant, stressant, insolent, voire violent. Je broie du noir sur le continent. Ça s'arrange pas en grandissant, ces crises de l'Occident. Ils veulent disséquer mon cerveau, voir d'où proviennent mes mots. Je leur ai mis une disquette sous un sourire de bimbo. Mon stress me ronge, me fait perdre ma foi. Dis ça, faut que je m'éclipse dans la Sierra. Mes doutes, je m'enfonce dans le gouffre. Leur système me bouffe, c'est mon cœur qui souffre. Dis, il faut que je bouge avant de devenir ouf. Avant qu'arrive mon dernier souffle, guidé par mes doutes, je m'enfonce dans le gouffre. Leur système me bouffe, c'est mon cœur qui souffre. Je bouge d'ici où je marche au pas. Mon Dieu, aidez-moi à être un véritable soldat.
Voilà, donc on reprend donc notre émission après l'écoute d'un morceau, Crise de l'Occident de Riam. Alors, on voulait revenir justement, on trouvait ça intéressant de revenir sur ce que disait Isman Chouda dans l'extrait de comment, justement en fait, la confiscation du jeu. Peut-être tu voulais dire quelque chose là-dessus.
Oui, réappuyer sur le fait que quand on fait partie d'un groupe dominé ou opprimé, à aucun moment c'est possible d'agir ou de parler sans que ce soit repris pour le compte de tout le groupe social, en fait. Alors, une personne va faire de la merde, c'est comme si tout le groupe social faisait toujours de la merde et comme s'il n'y avait pas des individualités à l'intérieur de ça. Et que du coup, ça fait aussi que c'est super compliqué de mettre en place des luttes parce qu'à plein de moments, ça va être... ça va faire risquer de stigmatiser tout un groupe social, par exemple, en menant des formes de lutte ou des trucs comme ça.
On est toujours renvoyé quelque part à un espèce de groupe qui serait prétendument homogène. En fait, on n'aurait pas des capacités à être différentes, à avoir des points de vue différents. On est toujours renvoyé au groupe des musulmanes, des arabes, des noirs. Et on n'a pas une possibilité d'être soi-même quelque chose, quoi. Et du coup, ça, c'était intéressant parce que c'est un truc qui peut être
Qui se répète,
transposé à toute forme de domination, de groupe minorisé sur les autres aspects de domination.
Oui, ça peut être les femmes, les gouines, les trans, les prolétaires. Enfin, en fait, ça se retrouve systématiquement dans des luttes et ça se retrouve systématiquement dans des systèmes de domination, en fait.
Et du coup, justement, en fait, toujours dans ces logiques de répression et d'invisibilisation de groupes sociaux qui essayent de montrer ou de revendiquer du moins des revendications politiques communautaires ou des spécificités culturelles, il y a eu quand même une sorte de déplacement, en fait, dans le contexte actuel de la figure de la femme voilée ou de la femme portant le foulard, pour pas utiliser tout le temps le terme voile et voilée, quoi. C'est qu'on est passé quand même du statut de la victime à sauver. Je veux dire ça, merci le matraquage pendant des années de Ni pute ni soumise, qui nous ont expliqué que du coup la femme arabe ou la femme noire ou la femme de banlieue, enfin les femmes, parce que la femme n'existe pas, ça veut rien dire, qu'en fait ces femmes de banlieue, il fallait les sauver de leur milieu d'origine, parce que c'était forcément un milieu dangereux pour elles, non progressiste, sauvage, barbare, voilà, pour faire vite, quoi.
Mais ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché, si. Je veux dire, c'est quand même une association qui a de très grand écho en France et ça marche. Mais de fait, il y a quand même tout un tas de femmes, en fait, qui résistent à ça. En fait, on voit bien que tout un tas de femmes ne vont pas se désolidariser leur groupe d'appartenance sociale, politique, ethnique, communautaire. Qu'en fait, elles ne vont pas du jour au lendemain aller jeter leurs frères noirs ou arabes, parce que c'est quand même ces groupes-là qui sont visés quand même souvent dans les cités, comme on les appelle, ou dans les quartiers populaires. Et du coup, ça, on est passé de la figure de la femme victime à sauver. Mais en fait, cette femme victime, vu qu'elle ne veut pas se faire sauver par d'autres gens, des fois, elle choisit, en fait, ses manières de faire. On est passé à la femme voilée ou la femme qui porte le foulard comme menace et comme complice, en fait, de ce système. Alors, à minima, on va la voir justement comme victime. À maxima, au pire, on va la voir vraiment comme la complice d'une sorte de fascisme vert qui vient pour installer la charia en France et qu'elle serait dans une forme de prosélytisme et qu'elle essaye blablabla. En tout cas, il y a quand même un déplacement qui s'est opéré. Et du coup, dans l'extrait, justement, Ismaël Choudhar, encore une fois, va nous en parler. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire autre chose ou on peut passer l'extrait sonore direct.
Il y a une espèce de conjoncture qui s'est installée et qui a fait de la femme musulmane de ce pays, alors avérée ou supposée, de la femme musulmane et celle qui porte un foulard, elle est posée comme représentant l'altérité par excellence. Et si toutes les lois depuis 2004 ont été possibles, si le passage à l'acte en termes d'agression a été possible, c'est bien parce que toutes... identification et solidarité à l'égard de ces femmes est impossible. Parce que dans l'imaginaire collectif de ce pays, une femme qui porte un foulard, elle n'est pas une victime, elle est la responsable de son agression du fait que ce qui préside à son agression, c'est l'agression que constitue son foulard. Et ça, cette construction de ces femmes-là comme une menace, elle est opérante à minima depuis une trentaine d'années, mais elle est officialisée par quelque chose qui constitue une vraie entorse et une vraie remise en question de la loi de 1905 et qui est la loi de 2004. Alors depuis, ça a été cité, loi 2004, loi 2010, proposition de légiférer à l'endroit des assistantes maternelles à leur domicile, les crèches privées, proposition de loi à l'université, dans l'entreprise, la charte de la laïcité qui est placardée dans nos écoles et qui est complètement dévoyée et falsifiée. C'est-à-dire que dans l'imaginaire et dans l'opinion collective aujourd'hui, d'accord, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de d'exclusion en tant que telle vis-à-vis de ce type de population. Juste une anecdote. Nous avons envoyé toute une série de courriers. Quand je dis nous, c'est tantôt la commission Islam et laïcité, tantôt le collectif Maman Toutes Égales, tantôt le collectif des Fils pour l'égalité. Donc nous avons commencé lors de la présidentielle dernière, parce que ouais, c'est vrai, j'avoue, hein, j'ai cru au changement, mais je me suis fait avoir, comme beaucoup de personnes dans ce pays. Nous avons sollicité tous les candidats, hormis le FN, tous les candidats à la présidentielle, pour obtenir leur position de principe dans la lutte contre les discriminations. D'accord ? Alors, il y a ceux qui nous... De toute façon, toute la réponse figure sur le site du collectif Maman Toutes Égales. Je vous invite à aller consulter leurs réponses qui sont éminemment édifiantes. Nous avons sollicité dernièrement encore Madame Taubira. Pas de réponse. Nous avons sollicité Monsieur Payon. Pas de réponse. Nous avons sollicité Madame Georges Ponangevin. Aucune réponse. Vous savez, la réponse, nous serons reçus par qui le jeudi 5 décembre. Je vous le donne en mille. Par le cabinet Valls. Mais c'est très révélateur, parce que quand un ministre de l'Intérieur actuel déclare publiquement que le combat essentiel de la République, c'est l'éradication du foulard, non seulement il ne faut pas s'étonner du passage à l'acte envers les femmes qui portent un foulard, mais il ne faut pas s'étonner non plus du traitement qui est réservé dans ce pays à une religion particulière qui est l'islam. Parce que actuellement, l'islam est géré de manière coloniale, et non pas néocoloniale, mais coloniale, par le bureau des cultes qui dépend du ministère de l'Intérieur.
Ne nous libérez pas, on s'en charge. Ne nous libérez pas, on s'en charge. Ne nous libérez pas, on s'en charge. Ne nous libérez pas, on s'en charge.
Vous êtes toujours à l'écoute de Dégenré sur Radio Kaléidoscope 97FM et on va continuer avec cette idée de la responsabilisation des femmes qui subissent des discriminations liées au fait qu'elles portent le foulard avec... une analyse des derniers trucs qui sont passés dans l'affaire de Baby Lou.
Voilà, en fait, juste pour faire un petit retour rapide, le dernier rebondissement dans l'affaire Baby Lou, souvenez-vous, l'affaire Baby Lou, c'est la crèche associative privée qui est du coup en procès avec une de ses ex-employées qui a été licenciée abusivement pour port du foulard, que du coup ça irait à l'encontre du principe de neutralité de sa fonction. Rappelons que c'est une crèche de droit privé, parce que c'est une crèche associative et non gérée par l'État. Toujours est-il que du coup, elle a fait un procès pour licenciement abusif, procès qui s'est soldé par maintes rebondissements juridiques, dans le dernier en date, qui était en faveur de la crèche. Et on a eu deux premiers qui étaient en faveur de la crèche, un troisième qui était en faveur de l'employé, et le dernier qui était en faveur de la crèche. Du coup, la justice a donné raison à la crèche. Alors certainement, ça ne s'arrêtera pas là, ça continuera... ça continuera en justice, mais par ailleurs, on voit dernièrement, en fait, dans le traitement médiatique qui en fait et dans les propos tenus, que ce soit par l'équipe dirigeante de cette crèche ou par ailleurs par les politiques, c'est que, au fait, tout le monde se lève d'une seule voix pour expliquer c'est dommage, cette crèche maintenant peut-être elle va devoir se déplacer, elle a perdu beaucoup d'argent dans ces épisodes juridiques et tout ça de la faute d'une personne. Voilà, qui ne reconnaît pas l'importance de cette crèche. Et du coup, en fait, là, au lieu de voir la chose comme un État avec des lois absurdes et racistes qui fait en sorte qu'une femme ne puisse pas travailler tranquillement comme elle le souhaite, alors qu'elle ne nuit à personne, on le voit à l'inverse. En fait, cette femme est responsable peut-être du délitement de cette crèche, peut-être de sa fermeture, de son déplacement, que cette femme serait responsable de tout ça. Alors que quand même, rappelons-le, la discrimination à la base est à son encontre. Ce n'est pas elle qui produit la discrimination à la base. Et du coup, il y a ce retournement qui est fait sur comment en fait, on analyse la figure de la femme portant le foulard. C'est que, au fait, quelque part, elle le cherche. Au fait. Mais bon, ça, comme toujours, au fait, quand les femmes se font agresser, quelque part, elles l'ont cherché. Et du coup, que font les organisations antiracistes en France ? Eh bien, pas grand-chose, je veux dire, à part les collectifs militants issus justement des quartiers populaires ou issus des personnes concernées, ce que font le collectif des féministes pour l'égalité, ce que font le collectif des mamans toutes égales, notamment sur les questions d'accompagnement sortie scolaire pour les mamans portant le foulard. D'autres collectifs, ce que j'ai cité, le collectif Front Uni des Immigrations Quartiers Populaires, je veux dire, les organisations institutionnelles et officielles françaises qui sont censées lutter contre la discrimination, il n'y a pas besoin de toutes les citer, mais voilà, tous les vieux mammouths de ces associations-là ne font pas grand-chose, en fait. Et du coup, on en arrive à des trucs complètement absurdes que le MRAP dernièrement, qui s'était déjà illustré lors de ces assises-là, je ne sais pas combien de temps, en parlant de racisme anti-blanc, dernièrement, parler plutôt de peut-être la solution miracle à tout ça, ça sera la suppression du moras de je sais plus où, de la Constitution ou de la Déclaration des droits de l'homme. Du coup, on est dans des logiques absurdes, au fait, et dans un truc de, continuer à être dans un espèce d'aveuglement en question de race, de religion en France et continuer à rester dans le mythe de la République une et indivisible qui mène à pas grand-chose sinon aller dans le mur. Et peut-être, après ça, on peut écouter un petit extrait sonore.
Bah oui, on peut continuer avec ça et c'est encore un extrait de Isman Chouder.
Permettez-moi de vous le dire, non seulement je suis en colère, mais j'en ai ras-le-bol, d'accord, qu'on pointe la montée du Front National, du fascisme dans son pays. parce que je suis bien passée pour savoir, avec d'autres, avec vous autres, que ce qui a permis la montée des extrêmes dans ce pays, c'est les reculades et le renoncement de la gauche et de l'extrême gauche. Et que si l'extrême droite a permis, d'accord, de se refaire, j'ai osé dire, j'allais dire une virginité, excusez-moi, voilà, la régénération du racisme dans ce pays est due à une posture très frileuse, très euphémisante de la part non seulement de la gauche et de l'extrême gauche, mais des organisations institutionnelles antiracistes. Parce que quand j'ai affaire à des organisations comme la Ligue des droits de l'homme, que je côtoie depuis 10 ans, OMRAP, que je côtoie depuis 10 ans, et dont le combat essentiel pour le moment se limite à une querelle sémantique sur l'usage du terme islamophobie, et que moi je leur objecte que ma priorité c'est la lutte contre les discriminations et les violences sur le terrain, et alors je renvoie ces organisations racistes qui ont permis cette montée des extrêmes, et je les renvoie donc à régler leur querelle sémantique, et en attendant c'est à nous, moi, vous, toutes ensemble, sur le terrain, par le bas, parce que là aussi, les privilèges, ça n'est jamais ceux qui sont en position de domination, que ce soit les hommes qui entretiennent le patriarcat, ou que ce soit les élites politiques et politistes de ce pays, qui vont renoncer à leur confort en termes de privilèges. C'est à nous, le terrain, militants de terrain, avec des politiques de bonne volonté, parce qu'il y en a, grâce à Dieu, j'ai envie de dire, si vous me permettez l'expression, que justement nous devons nous mobiliser et essayer justement de tisser des convergences et de faire des jonctions. Alors quand on parle de convergence, ça fait peur, parce que chacun en fait est sur le mode, j'ai pas les mêmes priorités que l'autre, et ainsi de suite, il y a des enjeux de pouvoir, mais moi j'ai envie de dire, tant que c'est ça qui fait le jeu, d'accord, de l'islamophobie, du racisme et du néocolonialisme qu'on subit par le haut depuis toutes ces décennies.
Voilà, du coup, encore les super propos de Ismaël Chouder, et du coup, qui rappelle à quel point ce que font la droite et la gauche au pouvoir, qui est extrêmement raciste et islamophobe, et en fait, plein d'associations de gauche vont pas se positionner vis-à-vis de ça ou alors soutenir, et que à côté de ça, les organisations institutionnelles antiracistes, elles vont plutôt pinailler sur sur des questions d'utilisation de certains termes, est-ce qu'il faut ou non utiliser certains termes comme islamophobe. Et qui vont pas être du coup dans la lutte et qui vont se retirer de tous les terrains de lutte. Mais heureusement, à côté de ça, il se passe quand même des choses et il y a pas mal d'assauts à pas mal de niveaux différents qui luttent contre l'islamophobie. Et je me rends compte qu'on a oublié de passer un morceau de musique, mais on aura qu'à le passer juste après. Et du coup, il y a pas mal de féministes qui s'organisent et qui vont... comme à Grenoble, par exemple, il y a l'asso qui s'appelle Nous Citoyennes, qui ont déjà organisé des débats ou aussi qui ont participé à des débats, qui ont organisé des rassemblements et tout. Et il y a plein d'assos qui vont continuer de lutter. Et du coup, on va parler de ça par la suite. Mais avant, on va écouter un petit morceau de musique de Riam, qui, je ne sais pas comment il s'appelle.
Alors, c'est un morceau de musique, c'est un featuring entre Riam et Kidna, et le morceau s'appelle Serpi, et on écoute ça juste maintenant.
Ok, Kidna, Riam, ok, écoute ça. Ok, c'est notre heure, c'est notre heure. Souvent écarté, dérange, reviens sereine, faire que je rentre dedans, fermer les bouts de ceux qui ont tenté de briser mes rêves d'enfant. Va d'étaler les cas, Gina, Riam, Panam Italia, casser l'instrumental, mais Dima, Silia, Hermana, ici pas. On décourage avant même que t'aies quitté la piste d'atterrissage, et ça dès ton plus jeune âge. Je blâme dans mes VL, Erika, l'hypocrite, t'es pas humide. Aujourd'hui j'ai Louis Léris intact pour vous combattre. Certains jacques défont les commerces, juste la fille traversière. Entre parenthèses, mon troisième doigt pour l'amica des locataires. Je le répète, t'es pas humide, je te brutalise, montée d'adrénaline normale. C'est rare que je me retrouve derrière un mic à rapper mes rimes. L'année défile, on grandit. Une fois la bague au doigt, certaines t'esquivent, t'évites sans motif. Prends-moi, ça me déprime. Mais bon, je continue mon chemin. Même si sur le boulevard, mon regard ne croise plus le tien. Et ouais, c'était peut-être le destin. J'ai cru connaître certaines personnes à qui j'ai ouvert ma porte. Le temps m'a fait comprendre qu'elles jouaient un rôle où j'étais leur interlope. Place ta confiance entre de bonnes mains, car les faux s'impliquent partout. Même je touche chaque voisin à qui tu confies tout.
Vivere tutti pronti a uccidere, l'unico obiettivo per loro rimane vincere. Rapporti distrutti come l'etere, ti guardo con veleno mentre volan via come la cenere. Servi, vivere tutti pronti a uccidere, l'unico obiettivo.
occhi come lettere. Ti guardo con veleno mentre vola via come la cenere.
Ok, pur le mixtape, se not air, se not air.
E dopo mesi di silenzio rivedo il tuo sorriso e mi brucia dentro come assenzio. Ogni tuo sguardo freddo mostra occhi dietro i quali non esiste sentimento. Non ho risentimento, ma ogni tuo gesto fisso in testa come impronte sul cemento. Neanche quando mi addormento riesco a fare un sogno che mi mostri un cambiamento. Ho anche un pentimento, ma adesso è giunto il mio momento. Tu fingi con quel viso assorto perché ti sei accorto che avevi torto. Ma io non faccio il tuo gioco sporco, ti aspetti il mio ritorno. Siamo finalmente giunti al punto di non ritorno, ma la mia difesa è diventata il tuo ultimo ricordo. Ogni tua mossa falsa non la scordo, se prima erano suoni di un accordo, adesso sono rumori che turbano anche un sordo. Per me puoi anche sparire, ciò che c'era ieri l'ho visto spegnersi e morire. Vale sì o no la pena di soffrire, adesso basta, è giunta l'ora di reagire e poi guarire. Tutti pronti a uccidere, l'unico obiettivo per loro rimane vincere. Rapporti distrutti come l'etere, ti guardo con veleno mentre volan via come la cenere. Servi, vivere, tutti pronti a uccidere, l'unico obiettivo per loro rimane vincere. Rapporti distrutti come l'etere, ti guardo con veleno mentre volan via come la cenere. Servi, vivere, tutti pronti a uccidere, l'unico obiettivo per loro rimane vincere. Rapporti distrutti come l'etere, ti guardo con veleno mentre volan via come la cenere. Servi, vivere, tutti pronti a uccidere, l'unico obiettivo per loro rimane vincere. Rapporti distrutti come l'etere, ti guardo con veleno.
Voilà, c'était Serpi, un morceau de Riam et Kidna. Riam qu'on aime bien dans l'émission et qu'on passe souvent. Et du coup, on en était au reculade de la gauche. Mais du coup, ce que nous disait Ernest, c'est qu'on n'a pas attendu la gauche, vu que la gauche, généralement, on s'en tape, mais on s'organise. Et notamment, bah justement, en fait, là, l'idée, c'est de dire que quelque part, là, en fait, il va falloir, enfin, qu'on est peut-être en train d'opérer un tournant. Alors, peut-être pas dans les organisations un peu radicales ou des organisations qui, depuis un moment, ont intégré la pensée décoloniale dans leur manière de réfléchir, mais en tout cas, de manière plus visible. Peut-être qu'on est un tournant qu'il va falloir, enfin, le virage qu'il va pas falloir louper, et du coup, aller réfléchir de plus en plus à un féminisme plus inclusif, au lieu de rester dans les mêmes sempiternels féminisme blanc, en fait, qui réfléchit juste à la parité, l'égalité salariale, et que ne sais-je encore, nous voulons des femmes à l'armée, quoi. Ce qui peut-être peuvent être des combats louables pour des gens, mais en tout cas, nous, on estime que c'est pas suffisant. Et du coup, bah, Lila Ben Sharif nous en parle dans un petit extrait sonore sur le virage qu'il va pas falloir louper.
On est peut-être à un tournant, et il faut pas qu'on le loupe, ce tournant. C'est-à-dire recomposer un féminisme radical qui tient compte de sa diversité, etc., et qui a un socle commun. Le socle commun, ça vise à ne pas trahir les fondamentaux, hein, les violences, protéger les femmes, rappeler aussi qu'il s'agit de lutter contre l'exploitation économique, hein, les femmes précaires, les travailleurs précaires sont principalement des femmes, et puis rappeler bien évidemment la lutte contre cette domination masculine. Donc, est-ce qu'on va réussir à opérer le tournant, aller vers un féminisme inclusif, mais il ne peut pas s'affranchir de cette question de où on en est de notre mythe de la République une et indivisible. Et parce qu'on louche tellement sur ces questions essentielles en France, c'est parce qu'on louche sur ces questions qu'on préfère dire que la laïcité, etc., elle est menacée, qu'il faudrait la protéger davantage. On n'a pas à protéger la laïcité, notre loi de la laïcité, elle est très belle, etc. En revanche, on doit se donner les moyens d'aller plus loin, et les organisations féministes y participent, à l'accès à l'égalité des droits pour toutes et pour tous aussi.
Oui, 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 à l'égalité des droits. Non, 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 à l'islamophobie. Oui, 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 à l'égalité des droits. Non, 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 à l'islamophobie.
Alors voilà, on va continuer justement en entendant des personnes qui n'ont pas loupé le tournant et qui ont bien pris le virage et qui du coup s'organisent d'une manière féministe contre l'islamophobie. Et comme il y a plein de gens qui s'organisent partout, comme le prouvait le fait qu'il y a eu une manif encore dernièrement à Lille, et il y a régulièrement des rassemblements et des manifestations. Et là, c'est quelqu'un de Rennes qui...
C'est Marine Bachelot de Question d'égalité.
voilà, qui est à Rennes et qui nous parle d'initiatives qu'elles ont menées dans leur ville.
Militante féministe, je viens de Rennes et je fais partie de plusieurs collectifs, dont une association féministe qui s'appelle Questions d'égalité, qui a organisé à Rennes plusieurs conférences dans l'idée aussi, par exemple, avec Monique Crillon sur laïcité et droits des femmes, c'est quoi le rapport, pour déconstruire un peu les idées reçues, parce qu'on nous brandit toujours l'argument de la laïcité comme garant du droit des femmes, alors que c'est pas du tout vrai historiquement. Qui a organisé aussi une autre conférence, croyante et féministe, c'est possible, pour l'interrogation, bien sûr que ça l'est, c'était avec Zahra Ali notamment, qui maintenant a écrit l'an dernier un livre qui s'appelle « Féminisme islamique ». Et puis, je fais aussi partie d'un collectif où là, on travaille avec des camarades aussi de l'association Alouda, qui est une association de femmes musulmanes et de féministes musulmanes, voilées, non voilées. Et on a organisé ensemble, en 2012, un happening qui s'appelait « Tous et toutes voilées contre le racisme et l'islamophobie » en réaction à toutes les lois islamophobes anti-voile et aux discriminations. L'idée était de sortir dans l'espace public avec un couvre-chef, un masque, un voile, ce qu'on voulait. Initiative qui a eu un assez chouette succès. Et évidemment, face à ce qui s'est passé, les agressions de femmes voilées l'été dernier, etc., en France, on essaie de relancer une dynamique et on espère pouvoir le faire avec d'autres collectifs militants dans d'autres villes. Et c'est déjà en train de se mettre en place. Voilà, juste en deux mots.
Et ben voilà, du coup, ça c'était une camarade d'un collectif féministe rennais. Et alors, féminisme, pourquoi on parle de féminisme ? Depuis tout à l'heure, on a parlé d'islamophobie, d'antiracisme. Et on parle de féminisme, bah, déjà parce que c'est une émission féministe. Non mais féminisme, pourquoi, plus sérieusement ? Et il se trouve qu'au fait, souvent, on va prendre ce bout-là par le fait qu'il serait bien que les organisations féministes soient solidaires des femmes portant le foulard ou soient solidaires des luttes des personnes racisées. Parce que ça serait des luttes en solidarité avec, mais ça serait bien des fois de se repenser au fait les femmes portant le foulard comme des femmes. Et du coup, c'est un combat féministe à porter en tant que tel, que du coup, les attaques qui sont faites aux femmes portant le foulard, c'est des attaques qui sont portées à des femmes, et que du coup, la grille féministe et la grille d'analyse féministe et antisexiste est utile. Et du coup, un peu réintégrer les femmes portant le foulard dans la communauté des femmes, en fait, qui peuvent et doivent bénéficier, au fait, de la lutte féministe et de la solidarité féministe. Et ça, justement, c'est qui nous le rappelle ? Enfin, en tout cas, c'est pas la seule à le dire, mais en tout cas, dans le cadre de cette soirée à laquelle on a assisté, eh ben, c'est Sylvie Tissot. Du coup, Sylvie Tissot, pour la définir très vite, c'est une... pour le truc institutionnel, c'est une sociologue, mais par ailleurs, elle est militante du collectif Elle et Messie. Le collectif Les mots sont importants, excellent truc où on peut trouver des choses sur Internet, voilà. Et aussi du collectif Les Tumultueuses, un collectif féministe antiraciste. Et du coup, elle nous rappelle qu'il faut remobiliser la grille d'analyse féministe. Et on s'écoute un petit extrait sonore.
À mon sens, il y a un deuxième élément de réponse qui mérite d'être creusé. Il me semble que pour construire un féminisme anti-islamophobe, il faut plus mobiliser la grille féministe pour comprendre le type d'exclusion, le type de violence, le type de discrimination qui est subi par les femmes musulmanes et en premier lieu celles qui portent le foulard. Il faut quand même rappeler que ces lois sont des lois d'exception qui visent des femmes, qu'aujourd'hui ce sont des femmes qui prennent des coups au péril de leur vie parfois, qui subissent des insultes quotidiennement, et c'est pas seulement parce que ce sont des victimes collatérales d'une espèce de grosse machinerie néocoloniale, raciste, etc., il faut le dire ça. Mais pour moi, et ça me saute aux yeux, cette exclusion, cette violence, cette stigmatisation a des ressorts intrinsèquement sexiste, et que pour moi, l'injonction des femmes portant le voile à se dévoiler ou à ne pas porter le voile fait partie de violences et d'injonctions plus générales et de logiques plus générales de contrôle du corps des femmes, qui fait que les femmes ne sont jamais libres et n'ont jamais été libres de s'habiller comme elles le veulent, qu'elles s'habillent toujours ou trop long ou trop court, et qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a l'injonction à être disponible, hein, à être contrôlable et à être disponible pour les hommes et pour le désir des hommes. Et là, je pense qu'il y a un cas intéressant d'analyse de comment deux types de domination fonctionnent ensemble, mais il n'y a pas l'une qui est subordonnée à l'autre. Hein. Et je pense qu'en réfléchissant à partir d'une grille de lecture féministe, et féministe pas seulement parce que c'est des femmes qui trinquent, mais elles trinquent en tant que femmes, en tant que femme. Et je crois que ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse vraiment tous, parce que ce qui me frappe souvent quand j'entends des gens, souvent, voilà, vaguement de gauche, des hommes, dans leur hostilité profonde, quand on les voit hérissés par la question du foulard, souvent ce qui transparaît, c'est que dans le foulard, ils voient un signe, un signal de non-disponibilité par rapport aux hommes, et notamment aux hommes blancs. Et ça, il faut le souligner. Ce qu'ils voient, c'est « je ne suis pas disponible pour toi ». Et juste pour illustrer ce que je dis, je voudrais vous citer, j'ai la citation complète, je ne vais pas vous la dire aujourd'hui, mais elle est disponible, mais je trouve qu'elle est très très parlante. C'est un article de Ciné. Hein, Ciné, ce dessinateur satirique ex de Charlie Hebdo qui a créé son propre mensuel, qui écrit cet article en juin 2013. Et il dit « Hourra, le soleil est revenu. Les jeunes filles commencent enfin à raccourcir leurs jupes et à s'habiller en couleurs vives et claires. » Bon, chouette, on va pouvoir mater les filles. « Mais j'ai pas de chance, dans mon bled, les femmes voilées ont plutôt tendance à en rajouter une couche et à rallonger leur vilain accoutrement couleur muraille. On a l'impression qu'elles craignent la lumière vive comme les enfants lunes. » Je continue. « J'en croise beaucoup depuis que je déambule chaque jour sur mon scooter, mais c'est plus fort que moi, je m'y habitue pas. J'arrive pas à les considérer comme des femmes normales avec qui je pourrais deviser, plaisanter et encore moins flirter. Une femme normale, c'est une femme avec qui on peut flirter. » Il m'est impossible de les imaginer en train de faire une turlute à leur barbu, de se faire mettre un doigt dans le cul ou de participer à une partouze. Désolée, mais c'est dans Ciné Hebdo, le journal que des tas de militants ou de mecs de gauche adorent. Hein, ils rigolent quand ils lisent ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut décoder, c'est sur ça qu'il faut travailler, et c'est sur ça aussi qu'il faut travailler dans notre milieu, hein, dans notre milieu antiraciste, où il y a tout ce travail de déconstruction sur les grilles de lecture coloniale, sur l'énorme machine raciste qui est en train de progresser, qui progresse de plus en plus dans notre société. Mais les violences contre les femmes qui portent le foulard, c'est des violences sexistes. Et j'insiste sur ça, et je pense que c'est à mon avis une condition aussi pour construire un mouvement féministe anti-islamophobe.
Yeah.
Merci.
البنات في مجتمعنا متقسمين في النقاب في الحجاب وفي بين البنين في قضايا كتير حوالينا متوقفة على البنت على لبسها على شكلها وده أصلا مش شر ازاي بتحكم عليا من شعري ولا طرحتي لو يوم بصيت عليا مش انا اللي هداري كسفتي بتعاكس وبتتحرر شايف انك صح مش غلط لو حتى بس بالكلام دي مش معاكسه ده زلط مش لبسنا الغلط بس الفكر اللي زاغ ايوه ساعات بيبقى زياده بس الراك على الدماغ نظره واحده بتنجي راحتك مش من حقك محتاج تتذبح وتتضرب قلمين على وشك مفهوم الانوثه في مصر بقى متقسم لحاجتين عند الراجل غير الست والاثنين غلطانين مين اللي قال في يوم من دول انوثه بالفساتين الانوثه فكر وعقل كمان تربيه ودين وصلت ان البنت ما عندهاش ثقه في نفسها بدات تحط فول ميك اب تلبس الوان فوق بعضها المشكله مش في البنت الموضوع حاجه تانية في المجتمع اللي بيأثر علينا في كل ثانيه لو سالنا اهل البنات عندهم ذوق في اللبس ايوه طبعا عندهم بس الحياه ما تتوصفش حياه بقت ماديه وكله عايز حاجه تعيش الغالي ثمنه فيه وكمان احلى من الرخيص يو
Mais là on est au cœur du débat. C'est pas possible, hein. On peut pas concevoir qu'une femme voilée puisse être une féministe.
Eh bien si, on peut le concevoir, parce que toutes ces militantes féministes portant le foulard qu'on croise et qu'on a croisé tendent à nous prouver le contraire. Du coup ça, la petite phrase choc, là, de ça on peut pas le concevoir, c'était Zaki Ameziani qui parle. Alors on vous présentera Zaki Ameziani par la suite, parce qu'on va passer un petit extrait sonore d'elle. Mais sinon avant, j'avais envie de vous parler de Mayam Mahmoud, qui est la rappeuse qu'on vient d'écouter, c'est une rappeuse égyptienne. Du coup, c'est le morceau de musique. Alors, on trouve très peu de choses d'elle sur Internet parce que, bon, c'est pas une personne qui a sorti des albums ou quoi, mais je pense qu'elle est passée par un espèce de télécrochet qui l'a fait connaître. Et Et notamment son morceau, justement, en fait, il est un peu pile-poil dans le sujet de dire, quelle que soit la manière dont les femmes de se présenter un peu vestimentairement, en fait, qu'elles portent un voile ou qu'elles s'habillent différemment, en fait, elles vont toujours ou avoir des critiques, ou subir des discriminations, ou du harcèlement sexuel, et que, voilà, en fait, elle appelle un peu à un truc de résistance et replacer les choses, de dire que les femmes ne sont jamais responsables de leurs agressions, des discriminations, et qu'elles ont le droit de bien s'habiller comme elles veulent. Et elle, en l'occurrence, elle porte un foulard, et voilà, rappeuse, elle rappe en arabe, et c'est une égyptienne. Et voilà, c'était cool de la présenter dans l'émission.
Et du coup, c'est tout à fait dans le sujet et dans ce moment de l'émission où on parle de comment effectivement se positionner contre l'islamophobie et contre l'islamophobie que subissent les femmes qui portent le foulard. À la fois, c'est une position antiraciste et en même temps, c'est bien une position féministe parce que en fait, si ces personnes elles subissent ces discriminations-là, c'est parce qu'elles sont des femmes et qu'elles subissent le patriarcat. Et du coup, on va continuer en entendant différentes personnes parler de leur féminisme et comment elles conçoivent leur propre féminisme.
Ouais. Parce que du coup, en France, on commence à voir, là, depuis pas très longtemps, un certain intérêt au fait, pour les courants de féminisme islamique ou les féministes musulmans. Et voilà, et du coup, il y a pas mal de personnes qui commencent à s'emparer de ça, voire qui se sont emparées ça depuis des années et qui se positionnent là-dedans. Et une d'entre elles, c'est la personne dont on va écouter le petit extrait sonore pour la suite, c'est Zakia Meziani. Alors qui est Zakia Meziani ? C'est une militante associative de terrain depuis des années. Elle est plutôt, son combat se situe plutôt à Tourcoing, du coup Tourcoing à côté de Lille, dans le Nord. Et donc sinon, elle est... elle est représentante ou peut-être voilà, elle est dans l'association pour la reconnaissance des droits et libertés aux femmes musulmanes et c'est une association qui existe déjà depuis 20 ans. Du coup, ça fait déjà quand même depuis 20 ans et peut-être plus pour certaines assos que des gens mêlent la lutte sur cette question-là. Et du coup, on va écouter Zakia qui nous explique comment elle vit son féminisme musulman.
Il n'y a pas un féminisme, mais il y en a plusieurs, ils sont divers et je me revendique du féminisme traditionnel mais aussi du féminisme musulman. C'est de dire à l'intérieur de notre communauté, à ces femmes, on va dire ce qui est, le féminisme ne parle pas trop aux musulmans, c'est une notion qui est très attachée à la libération, à l'émancipation du corps, à la libération sexuelle, etc. C'est très tabou, ce sujet, à l'intérieur de la communauté musulmane. Mais nous, notre discours est de dire d'abord à ces femmes, mais aussi on s'adresse, c'est beaucoup plus difficile de parler aussi à nos frères. Je peux vous expliquer très rapidement comment on procède sur le terrain depuis 10 ans notamment. C'est de dire aux femmes musulmanes, vous revendiquez musulmanes, allez puiser, et vous le savez que votre, et je ne fais pas là du tout de prosélytisme religieux, vous savez que votre religion vous a libéré, vous a émancipé, vous a donné des droits, eh bien instruisez-vous dans votre religion, que la parole religieuse ne soit pas le monopole des hommes. Et là, je ne me positionne pas du tout en termes d'opposition avec mes frères musulmans. Bien au contraire, on les invite à discuter avec nous. C'est pas facile. Par exemple, depuis 20 ans, ça fait à peine 2 ans, que sur Tourcoing, nous nous réunissons autour d'un collectif qui s'appelle le collectif des musulmans Tourcoing Wadi Tlalis, qui réunit les mosquées de Tourcoing et d'Aluin, et où, pour la première fois, nous discutons avec les responsables des mosquées sur toutes ces problématiques-là, et notamment l'islamophobie. C'est une réalité dont on doit avoir conscience. L'émancipation, elle ne vient pas d'en haut, elle ne se décrète pas. Il y a un travail de fourmi qu'il faut fournir au quotidien. Avec nos frères et sœurs musulmans, mais aussi, le deuxième front, avec la société. On est victime de discrimination, de racisme, maintenant de violence physique. Ce que nous faisons sur Tourcoing, c'est que
Bah, on essaie de tisser du lien comme on peut. On pense que pour que les choses évoluent, il faut que les mentalités elles évoluent. On organise des choses et d'autres sur des thématiques et on invite les élus, les associatifs, ils viennent ou ils viennent pas, très souvent ils viennent pas, mais il n'empêche que nous, nous le proposons et nous le mettons en œuvre.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Dégenré. Et alors, on vient d'entendre Zakia Meziani expliquer comment elle se définissait comme féministe musulmane. Et maintenant, on va écouter Isman Chouder qui parle plus de comment elle se définit féministe tout court et qu'elle utilise différents argumentaires en fonction de ce qu'elle parle et du sujet.
C'est que moi, je ne me définis pas en tant que féministe musulmane. Je suis féministe, point barre. Ce qui ne m'empêche pas de travailler sur le féminisme musulman. Pourquoi ? Parce que le fait de me renvoyer à une catégorie féministe musulmane, c'est encore une modalité de relégation dans un tiroir ou sous une étiquette. Et c'est encore un moyen de me couper, d'accord, des convergences possibles et des jonctions qui existent, fort heureusement. Donc je suis féministe. À ce titre que je lutte contre le système de domination par excellence qu'est le patriarcat. Je suis féministe parce que je lutte pour l'égalité des droits hommes-femmes et je mobilise un argumentaire féministe musulman parce que, comme l'a très bien dit Zakia, de l'intérieur, alors pas de la communauté, parce que la communauté musulmane, elle n'existe pas, elle est beaucoup fantasmée, on en parle beaucoup, on essentialise beaucoup, mais elle n'existe pas. Il y a autant de communautés musulmanes qui adhèrent politiques, culturelles, économiques, civilisationnelles à travers le monde. Et mes priorités en tant que féministe française en France ne sont pas les priorités des féministes africaines ou états-uniennes ou asiatiques, ou même antarctiques. Donc, et quand j'ai dit ça, je n'aurais pas résolu le problème, mais je mobilise un argumentaire féministe musulman parce qu'il faut bien dire, à minima depuis 14 siècles, on s'est servi du religieux, du divin, au sein même de l'islam, pour subordonner la femme musulmane. Et que le premier agent qui relaie la condition inférieure des femmes, c'est la femme, parce qu'elle est persuadée que c'est le religieux, le divin, qui lui dit d'être à sa place, en position de subordination et d'infériorisation. Donc mon rôle en tant que musulmane, parce que j'ai une multiplicité, en tout cas non, j'ai une identité multidimensionnelle, parmi celles-là, et je renonce de m'amputer de celles-là, je suis musulmane, je suis obligée, parce que justement je suis féministe, de travailler sur ce champ-là, et de travailler à une réappropriation par les femmes de l'intérieur de l'islam, des sources scripturaires musulmanes, qui eux possèdent cette marche profondément égalitaire. Et dans une démarche méthodique et méthodologique, j'avance, puisque j'ai fait 5 années de sciences islamiques, j'avance qu'il y a des textes et il faut leur restituer leur charge profondément égalitaire et libérale à l'endroit des femmes, qu'il y a des lectures et des interprétations, et elles vont des plus affligeantes, des plus rigoristes à l'égard des femmes aux plus réformatrices, et je me réclame de celles-là, et qu'il y a des pratiques, et que les pratiques patriarcales, machistes, sexistes des hommes sont le fait, pas du fait qu'ils soient musulmans, mais parce qu'ils sont des hommes.
Voilà, du coup, c'était Isman Chouder, encore une fois, encore elle, qui nous parlait du coup de l'intérêt pour elle et la pertinence pour elle de se définir féministe, et de comment, à l'intérieur de son féminisme, elle va mobiliser des argumentaires différents en fonction du sujet. Et voilà, je pense qu'on commence à s'approcher petit à petit vers la fin de notre émission, mais on voulait encore vous parler de choses. Notamment, on a parlé par exemple de féminisme musulman, de féminisme islamique. On se disait qu'il y avait un intérêt à vous parler d'un livre qui est sorti l'année dernière, on va dire. Je ne sais plus c'est quoi la date de sortie exacte. Il s'appelle justement « Féminisme islamique ». C'est de Zahra Ali. Alors ça s'écrit Zahra, Z-A. H-R-A, et plus loin Ali, A-L-I. C'est sorti aux éditions de La Fabrique, qui sortent souvent des chouettes choses. Et du coup, c'est un livre qui compile plusieurs textes d'auteurs féministes musulmanes ou de personnes qui se réclament de féminisme islamique et du coup qui parlent de sujets différents et de points de vue qui viennent de pays différents ou de, du coup, ou de pays à dominante musulmane, de pays musulmans ou de pays où des personnes ont immigré et où elles ont une pratique qui se réclament de l'islam même dans les pays où elles sont. Voilà, du coup, on voulait parler de ce livre-là. Quoi d'autre ? Ah oui, le truc important, justement, dans cette émission, c'est justement tout ça, c'est tout un petit truc, commencer à vous préparer à mars 2014. Alors, mars 2014, c'est quoi ? C'est le 10 ans de la loi merdique de 2004. Du coup, la loi qui a mené à l'exclusion de dizaines et dizaines de filles portant le foulard de leurs écoles. Et qui a été un peu une sorte de grand tournant, en fait, et de grande porte ouverte à n'importe quoi en France sur toutes les lois, en fait, qui ont visé la population musulmane et les femmes musulmanes portant le foulard en particulier. Et du coup, en fait, vu que ça sera les 10 ans de cette loi, eh ben, il va falloir faire quelque chose. Et notamment, il y a la mobilisation qui s'organise. On commence déjà à parler d'une manif qui aurait lieu peut-être le 15 mars 2014 à Paris, et j'espère dans beaucoup d'autres villes. On verra bien et puis on vous tiendra au courant au fur et à mesure dans notre émission. Il y a d'ores et déjà une pétition qu'on peut aller signer qui est sur le site du CFPE. Alors le CFPE, c'est le collectif féministe des féministes pour l'égalité dont est issue Ismaël Choudhar, qui est d'ailleurs même la présidente de ce collectif. Leur site internet, c'est www.cfpe2004.fr. Du coup, on peut signer une pétition. On voulait vous lire l'appel pour la mobilisation justement pour 2014, mais bon, on ne l'a pas avec nous. On a eu un petit couac dans les différents documents qu'on a ramenés avec nous. Mais bon, en l'occurrence, ça rappelle un peu tout ce qu'on disait. Quelle a été l'arrivée de cette loi en France, tout ce qui s'est passé par la suite, les propositions de loi qui continuent de tomber sur le coin de la gueule au fur et à mesure. Et du coup, il faut garder une dynamique de lutte, de combat, il faut continuer à se mobiliser. Et notamment pour demander l'abrogation de cette loi, qui est une loi absurde, discriminante, raciste, et j'en passe. Du coup, ça sera en 2014. On se disait peut-être, alors moi j'avais envie de peut-être lire un petit texte. Alors bon, certes il est écrit par un homme, mais qui est un homme que j'apprécie tout particulièrement, c'est Michel Warchavski, qui travaille beaucoup sur les questions anticolonialistes, et notamment anticolonialistes antisionistes, parce qu'il travaille beaucoup sur la question palestinienne, enfin Israël-Palestine. Et du coup, il a fait un petit texte, notamment autour des femmes, que moi j'aime bien. Et du coup, je me disais, tiens, j'avais qu'à le lire pendant l'émission, parce que je voyais une sorte d'intérêt et de pertinence à le lire pendant cette émission.
Alors, on lit ce texte. Féminisme ? Non, colonialisme. Il y a des gens qui aiment montrer aux passants leurs fesses ou leurs parties génitales. On les appelle des exhibitionnistes. Dans certains pays, l'exhibitionnisme est considéré comme un crime. Dans d'autres, c'est une sorte de trouble mental léger et ils sont envoyés vers un traitement psychiatrique. Personnellement, je ne pense pas que l'exhibitionnisme nuise à quiconque et doit donc être laissé libre, ni en prison ni en hôpital psychiatrique. Le groupe Femen est un groupe d'exhibitionnistes qui aiment montrer leurs seins aux passants. Jusqu'ici, pas de problème. Elles affirment pourtant que leurs provocations relèvent de la manifestation publique et même d'une manifestation féministe. Dans les années 70, j'ai appris du mouvement féministe que le corps de la femme n'est pas un objet de publicité, y compris d'une éventuelle publicité politique. Les Femen ne sont pas plus féministes que les filles de Playboy ou des danseuses de striptease, avec une différence cependant. Alors que les stripteaseuses se déshabillent en public pour gagner leur vie, le gang Femen n'a même pas cette excuse pour ses expositions publiques. Il y a quelques mois, les Femen avaient décidé d'aller montrer leurs seins en Tunisie afin de donner des leçons aux Tunisiennes sur la libération des femmes. Au cours d'une contre-manifestation des féministes tunisiennes, certaines voilées et d'autres dévoilées, ont clairement signifié aux femmes qu'elles n'étaient pas bienvenues en Tunisie. « Vous ne nous enseignez pas ce qu'est la libération des femmes ici », a déclaré une femme tunisienne à la bande femmes. « Retournez chez vous et n'essayez pas de nous coloniser ».
Colonialiste, c'est la vraie caractéristique des femmes, des femmes occidentales qui prétendent enseigner aux femmes arabes et à d'autres ce qu'est l'émancipation des femmes et la façon dont elles devraient s'y prendre. Après le prêtre catholique et sa Bible, la femme et ses saints. Rien n'a changé, l'Occident tente toujours, encore, d'éduquer les indigènes et leur montrer ce qu'est la vraie civilisation. Les femmes sont allées à Bethléem à Noël pour exposer leur corps à la basilique de la Nativité. Je suppose que les femmes de Bethléem, chrétiennes et musulmanes ensemble, ont dû leur montrer le chemin de l'aéroport de Lod, en précisant que celles qui ont participé, voire mené, la grande intifada de 87 et pris une part active dans la résistance à l'occupation coloniale israélienne qui dure depuis près d'un demi-siècle, de telles femmes n'ont pas besoin de leçons de résistance de la part d'occidentales qui montrent leur sein pour quelques minutes de publicité. Voilà. C'était un texte de Warszawski, que j'apprécie vraiment beaucoup, et qui, bon, donne un peu quelle est la position un peu dans notre groupe autour des femmes, qui, ben voilà, on les aime pas beaucoup, voire vraiment on trouve qu'elles servent à rien.
Et puis, en fait, si, elles servent à quelque chose. Elles servent à donner des leçons et à dire de la merde, mais je dis, on peut pas dire qu'elles servent à rien, parce qu'elles ont quand même une position importante, et puis elles sont à fond relayées par plein de médias, qui du coup ont l'impression d'être féministes parce qu'ils relaient le discours des femmes, chose avec laquelle nous ne sommes pas du tout d'accord.
Oui, en tout cas dans les luttes qui nous concernent, elles servent à rien à part à nous nuire. Du coup, voilà, c'est des êtres nuisibles. Voilà.
Peut-être on peut passer un morceau de musique parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas passé.
Ah oui. Ah oui, alors ce morceau de musique, alors c'est la transition toute faite, parce que justement on vient de parler de Warszawski, on vient de parler de Palestine, des femmes qui sont parties justement donner des leçons à des personnes qui n'en ont vraiment pas besoin. Et le morceau de musique qui suit, c'est mon petit morceau préféré du moment que je passe dès que je suis quelque part. C'est El Koufiyé, qui veut dire le kéfié en arabe. C'est un morceau de la rappeuse palestinienne Shadia Mansour. Ce qui permet de parler aussi justement de comment des fois des objets vestimentaires peuvent symboliser des choses. Alors le foulard en France qui cristallise tout un tas de débats, ou le kéfi en Palestine qui est vraiment un symbole de résistance et d'appartenance politique et communautaire. Et du coup c'est Shadia Mansour qui nous dit « Allez le kéfié », ça veut dire « il faut montrer haut notre kéfié ». Et voilà, un petit morceau de musique avant de poursuivre.
تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا الدموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه نسكت لن نسمح لن ليه ليه لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهم ما خصن فيه يلدونا بلتبس لبس هالأرض بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس عرفوا كيف يكونوا بشر عربي إلنا بتلبسوا كوفي جينا نذكر مين إحنا وغصب عن أبوهم هاي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأننا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني أشوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه ديك العرب الثاني بخص غزة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأنها وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية
I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The keffiyeh ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable neath the bandana. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hot, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rap with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kafir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag.
Bonsoir, alors vous êtes toujours à l'écoute de Dégenré et ce soir on va vous faire un petit agenda conséquent, mais avant ça on voulait vous parler de d'autres trucs où il y a moyen d'avoir de la ressource sur ce sujet-là. Et alors déjà, il y a Radio Rageuse, radiorageuse.net, un site internet qui regroupe pas mal d'émissions de radio féministes. Et il y en a déjà eu de Dégenrées sur la question de l'islamophobie, mais il y en a aussi qui ont été faites par d'autres collectifs de radio.
Et bah, notamment, par exemple, une des récentes émissions de « On n'est pas des cadeaux ». Du coup, émission de camarades sur Lyon, sur Radio Canu. Et du coup, notamment une des émissions de fin novembre, je crois du 22 novembre, qui était une émission un peu autour des pensées de Massad. Du coup, Massad qui parle pas mal de... comment justement la dualité homo-hétéro est une dualité occidentale et comment la transposition d'identité ou de catégorisation sexuelle ou de combat occidentaux en Afrique ou dans d'autres pays plus pauvres, en fait, c'est une continuité de l'impérialisme. Et du coup, comment on essaye de calquer des catégories occidentales comme il se faisait à l'époque de la colonisation. On va en fait les personnes qui ont la possibilité de catégoriser et de créer les identités. Du coup, on trouve que c'est pas mal en lien. Alors, même si l'émission sur l'islamophobie, c'est le contexte franco-français, mais bon, c'est toujours intéressant à mettre en lien avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que c'est toujours les mêmes logiques de, les catégories dominantes civilisées qui vont amener la lumière et le savoir aux catégories indigènes barbares qui seraient donc à civiliser et à démocratiser.
Du coup, On n'est pas des cadeaux, c'est une émission transpédéguine et féministe qui est à Lyon le vendredi de 17 à 18h, une semaine sur deux.
Voilà. Et sinon, en fait, on vous en parlait du livre de Zahra Ali, Féminisme islamique. N'hésitez pas à l'emprunter, à le trouver, l'acheter, le voler. On va faire en sorte de l'avoir entre les mains. Il est intéressant. Sinon, moi, je peux que vous conseiller les livres d'Edouard Saïd, tous. Du coup, autour de l'impérialisme, de l'orientalisme. C'est intéressant, c'est dans le sujet. Et puis, tout un tas d'autres personnes qu'on vous a déjà conseillées dans d'autres émissions. On ne va pas faire toute la bibliographie, mais peut-être on pourra mettre une petite bibliographie sur le site de Radio Rageuse. Comme ça, quand vous téléchargez l'émission, vous pourrez aussi avoir quelques petites ressources documentaires ou de films ou de choses à écouter. Voilà, et après, là, je laisse Ernest faire l'agenda.
Alors voilà, pour l'agenda, il y a... On va commencer par Grenoble et en fonction du temps, on passera dans d'autres villes. Le 1er février, comme dans plein d'endroits, il y a un appel national à manifester pour le droit à l'avortement et contre la loi espagnole qui est en train de passer ou qui est passée. Le rendez-vous pour le 1er février à Grenoble, c'est à 14h, place Félix Poula. Il y aura aussi une manif à Lyon, je crois, devant le consulat d'Espagne. Et puis ensuite, pour continuer l'agenda, il y a en ce moment à Grenoble une grosse semaine, ça s'appelle comme ça, qui est organisée par l'Orage avec énormément de débats, de conférences gesticulées, de projections, plein de choses super intéressantes. Il y a deux trucs dont on voulait vous parler. C'est d'abord le jeudi 23 janvier à 20h au Prunier Sauvage. Du coup, c'est 63 rue Albert Rénier. Il y a une conférence avec Jessie Cormont, et c'est sur les quartiers populaires banlieue, l'égalité en colère, du coup sur contre les inégalités de race, de classe, de sexe. et Jessie Cormon, c'est un sociologue militant des quartiers populaires. Ensuite, l'autre petit truc qu'il y a dans le même cadre, c'est une soirée sur le clitoris, du coup, qui est plus tard, le samedi 25 janvier à 18h, salle de Montvigne, c'est à Fontaine. Ça s'appelle Le Clito, un petit nom qui en dit long, plaisir et politique au pays de la sexualité féminine. Alors voilà, c'est par contre, il n'y a pas de réservation, mais c'est 5€ pour les précaires. Et ça sera suivi par un atelier le plus tard. Et ça sera le dimanche 26. Et pour l'instant, le lieu et l'horaire n'ont pas été donnés. Mais vous pouvez vous renseigner sur Internet. Il y a toutes les informations. Les informations, elles sont aussi sur Indie Media. Et du coup, un site d'information grenoblois, grenoble.indiemedia.org. Et voilà, c'est dans le cadre de cette semaine-là. Ensuite, toujours cette semaine, le vendredi 24 janvier, au bar qui s'appelle À l'affût, rue Trécloître, à 19h, il y a une soirée pour réfléchir collectivement aux questions de contraception et d'avortement, et pour s'organiser et lutter, notamment autour de l'actualité espagnole.
Je peux encore dire qu'il y a un cabaret qui va avoir lieu le 25 janvier, du coup il y a un samedi, qui a lieu à Lyon, dans un squat qui s'appelle le TAV, qui est dans le 3e arrondissement, que si vous fouinez bien, vous trouverez bien l'adresse, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Du coup, c'est un cabaret, on en mixité Meuf Gwyn Trans, et c'est un cabaret de piraterie féministe. Du coup, venez avec votre plus belle tenue de pirate.
Et encore à Lyon, du coup, il y a aussi un festival multimédia qui s'appelle Les Inattendus. Et alors, c'est un festival qui a l'air de passer plein de films différents, dont pas mal de films dans un cycle qu'ils appellent Migrants Scène, et du coup, sur les questions de migration et de racisme. Et il y a aussi deux films sur les questions de genre. On ne sait pas trop ce que ça vaut, on a juste un peu entendu parler de ce festival, mais ça vaut le coup d'aller lire leur programme, il est assez complet et assez long, et il est sur internet, sur www.festival-inattendu.com. Voilà, donc en gros, pour l'agenda qui est assez chargé pour ce mois-ci et cette semaine. Et aussi, dans les trucs féministes, il y a moyen de se renseigner parce qu'il y a un ciné-club féministe qui se met en place à Grenoble. Et on n'a pas vu les prochaines dates, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura des trucs sûrement au 102, au local et autogéré, et à la BAF, des projections thématiques autour du féminisme dans les mois qui viennent.
Et comme d'habitude, n'oubliez pas de venir passer, rendre vos livres, emprunter des livres, voire même vous inscrire à la bibliothèque féministe, à laquelle d'ailleurs vous pouvez nous croiser, certaines d'entre nous, des personnes qui font et font vivre cette émission. Voilà. Et du coup, la bibliothèque féministe, c'est à la BAF. Du coup, la BAF, un centre social autogéré qui est aux deux chemins des Alpins. À Grenoble.
La bibliothèque n'est ouverte que le lundi de 16h à 20h.
N'oublions pas.
La grande majorité du temps en non-mixité entre meuf, Gwyn et trans.
Voilà, c'était cool de faire cette émission. Et là, avant de rendre complètement l'antenne, on dit, c'est ça. On va laisser la parole de la fin à Fadela, qui est une femme qui porte le foulard, que j'ai croisée à Lille lors de cette soirée, qui nous dit son petit point de vue personnel sur le sujet. Et après, ça sera un petit morceau de musique pour la fin, La Gale, passage d'une frontière. Et au revoir et à bientôt pour Dégenrer.
Au revoir.
État raciste ! État complice, État raciste, État complice, État raciste, État complice, État raciste, France pas complice. Islamophobie, y'a la mort, 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 islamophobie, y'a la mort.
Donc je suis Fadela Mazouzi. Moi, je porte le foulard depuis 4 ou 5 ans. Et il est vrai que je suis musulmane. Je fais ma prière. Et c'est vrai que je trouvais assez schizophrène de porter le foulard à la maison quand on allait prier. Et puis quand on sortait, on l'enlevait. Donc moi, je vivais ça très, très mal. Effectivement, donc, je le porte depuis 4 ou 5 ans. Et je ne comprends pas comment, j'allais dire, nos compatriotes françaises sont réticentes par rapport à ce foulard. Comme disait un formateur d'IUFM, il disait « Moi, je ne suis pas contre les femmes avec des mini-jupes, alors je ne comprends pas pourquoi on serait contre les femmes foulardées. » Et donc, c'est vrai que ce n'est ni mon père, ni mon frère, ni mon fils, j'ai la soixantaine, qui me force à porter le foulard, je le porte, tout en étant très féministe. Je suis mes 68 ardes, j'ai fait partie de toutes les luttes féministes, j'allais dire, de l'époque et encore aujourd'hui. Et donc, cela n'empêche pas que j'ai choisi ma pratique religieuse et je ne vois pas en quoi ce foulard dérange. Voilà, je ne vois absolument pas pourquoi ce foulard dérange, qui est un petit morceau de fichu qui couvre les cheveux, tout simplement. Ça ne nous empêche pas de manger, de boire, de dormir et de militer tout autant pour les femmes. Je suis très, très, très féministe dans la mesure où je pense que ce sont toujours les femmes qui bavent. Quel que soit le combat, ce sont les femmes qui trinquent. Effectivement, ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu les relents de racisme qui sont dus à ce qui reste du colonialisme et qui se traduit autrement. Je suppose que la base même de toute cette histoire-là, c'est du racisme. C'est du profond racisme, c'est de considérer que l'autre n'est pas un homme ou une femme à part entière et donc elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut, donc on doit lui dicter un petit peu tout ce qu'elle doit faire. Alors donc quand elle rentre dans le moule, ça va bien. Si elle rentre dans le moule, si elle boit, même si tous les Français ne boivent pas, si elle fume, même si tous les Français ne fument pas, eh bien ça va bien, hein, on fait avec. Mais si elle montre une certaine identité culturelle qui ne va absolument pas contre, j'allais dire, la citoyenneté française, il n'y a aucune raison que mon identité gêne en quoi que ce soit.
Oui, 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 à l'égalité des droits. Non, 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 à l'islamophobie. Oui, 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 à l'égalité des droits. Non, 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 à l'islamophobie.
L'islamophobie, ça suffit.
Islamophobie, ça suffit.
Islamophobie,
ça suffit.
Islamophobie,
ça suffit.
Islamophobie,
ça suffit.
Phosphore blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes. Ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qu'ils haïssent, ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais préinscrit en lettres capitales, sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale, pour des nations bâties à l'usure de nos sandales. Et qui se garderont bien de soulever tout scandale pour nous l'espoir. Lentement c'est tarif par escale entre charter, expulsion, l'univers carcéral étera jamais la bête noire de ces chacals. Et mon ambition première, je considère que c'est normal, le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière.
Par-dessus tout autre chose qu'hier.
Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Claquer la porte, il y a de ça fort longtemps, ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement et je brûle, me consume en quatre temps, une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos gens, pour des générations acquises par nettoyage mental, à qui je souhaite un examen de conscience radicale. Si ce sol je foule encore, c'est pour que mes pas y restent imprimés après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain, que la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur la brèche insolente et la branche qu'ils ont sciée, se tient le rêve jamais brisé d'un à un, les voir tomber. Des racines asséchées de nos précieux oliviers, au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent. Quant à nous s'offre le soir, les murs se taisent, nos morts sur scène. Mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière.
Par-dessus tout autre chose qu'hier.
Des drones, des gravières, des dettes en surenchère.
Pour une guerre à ciel ouvert.
Madi, Bassam, Fadi, Sami, Antal, Soha, Malika, tous les frères, les sœurs, RGB. DJ Leto Skills.